Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau Flash Résultat. On va parler des résultats du week-end des équipes charentaises et des athlètes charentais, puisqu'on a aussi des résultats d'athlétisme et de judo à vous communiquer. On va commencer par le football, l'ACFC qui recevait samedi soir l'équipe de Moulinsheim, hein, dans un match hyper important de National 2, tant ce classement est serré en haut mais également en bas, hein, puisque entre le 6e et le 16e, eh bien il y a très peu de points d'écart. C'est un match important pour Angoulême qui recevait donc le MIF, et le MIF qui n'avait qu'un point de retard sur la CFC avant le coup d'envoi. Également l'occasion de revoir sur la pelouse de Lebon l'ancien joueur de la CFC, Mourad Alouache, qui est reparti du côté de l'Allier. Et un match qui s'est très bien passé puisque la CFC l'a remporté 3-0. Une première demi-heure assez équilibrée dans des filières un peu différentes. Angoulême avait plutôt la possession du ballon et Moulins se projetait rapidement vers l'avant. On souligne d'ailleurs l'arrêt d'Alanounou sur Mourad Alouache qui était parti à la limite du hors-jeu. Et c'est finalement Angoulême qui ouvre le score à la 40e minute. Geoffrey Lobo, qui trouve dans la surface de réparation André-Patrick Kayoubi, qui décale directement en retrait sur Arnaud Buisson. Et la frappe d'Arnaud Buisson est déviée par un joueur de Moulinsheim qui prend à contre-pied son gardien. 1-0 pour la CFC. 2-0 assez rapidement, puisqu'à la 45e minute, Arnaud Buisson, qui a été buteur, devient passeur décisif pour Benjamin Bark, l'indispensable, comme moi je l'appelle personnellement. Et Ben Bark, du coup, met le 2-0. Donc, les Angoumoisins regagnent les vestiaires avec 2 buts d'avance. Retour des vestiaires, 3-0 à la 60e minute de jeu. Une grosse faute sur Alex Mourabit. Et c'est Mamadou Guirassy qui se charge du pénalty. Un pénalty qui donc est son premier but sur les couleurs de la CFC en match officiel. Il avait déjà marqué avec l'équipe réserve il y a quelques semaines. Là, il marque avec la première. Donc, ça récompense son travail et ça lui donne, eh bien, le plein de confiance pour les matchs à venir. Donc, la CFC s'impose 3-0. Une bonne opération pour les Angoumoisins. Je vais donner les autres scores de cette journée. Donc, avec Andrézieux et Saumur qui font 2 partout. Bourges bat Trélissac 2-1. Gaul est accroché à Nantes 2 partout. La CFC bat Moulins 3-0. Les Herbiers gagne à Stade Bordelais 2-0. Bergerac gagne à Romorantin 4-1. Chamalières bat Lorient 1-0. Et enfin, hier, Angers et Vierzon ont fait match nul un partout. Au classement, premier Gaul avec 34 points. Deuxième, Les Herbiers 33. Et troisième, Bergerac 32 points. La CFC remonte à la 6e place avec 24 points. Et c'est désormais donc 4 points d'avance sur la zone rouge, puisque le Stade Bordelais est le premier relégable à 20 points. J'étais dans les vestiaires avec Séti Touré, le milieu de terrain de la CFC. On l'écoute tout de suite. Séti, victoire 3-0 contre Moulinsheim. C'est important de bonifier ce bon nul que vous aviez ramené du côté de Gaulle. 3-0, l'opération est bonne ce soir?
Ouais, l'opération est bonne. Elle nous fait du bien cette victoire. On sortait d'un bon match nul contre Gaulle FC. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse tout pour gagner ce match ce soir. C'était pas facile dès le départ, mais on a mis les ingrédients pour gagner ce match.
Oui, une première demi-heure plutôt équilibrée, alors dans deux styles différents. Vous aviez plutôt la possession et Moulins se projetait rapidement vers l'avant. Et puis les deux buts juste avant la mi-temps font énormément de bien.
Exactement. C'était un match assez serré avant qu'on mette, même dès qu'on a mis les deux buts, ils continuent à pousser. Mais dès qu'on a mis les deux buts, ça nous a fait du bien et ça nous a permis de un peu plus nous libérer.
Et puis comme contre Nantes, le troisième but arrive assez rapidement, cette fois sur un penalty, et ce qui permet à Mamadou de marquer son premier but avec nous.
Ouais, exactement. Après, on se l'était dit, le troisième but, il est très important, soit pour eux ou pour nous. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse tout pour ne pas prendre de but et pour en mettre un. Et Mamad, son travail est récompensé, parce que depuis qu'il est arrivé, il charbonne beaucoup. Le match contre Gaulle, il nous a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, ça lui a souri, on est content pour lui.
Bon, et puis la semaine prochaine, on revient à Lebon. C'est vrai que la première partie de saison avait été compliquée à Lebon. Là, vous restez donc sur 2 victoires de suite à domicile, avec la victoire de Romont au mois de décembre et celle de ce soir. Contre Chamalières, aussi important de gagner, parce que ce match de Chamalières, c'est presque un match bonus où s'il y a 3 points de plus, il peut y avoir un petit écart qui est fait avec les équipes de derrière.
Bien sûr, exactement. Le match de Chamalières en plus, j'ai vu que je crois qu'ils ont gagné tout à l'heure. Ça va être un match assez...
Le 2-2 contre 2-2. Saumur, il me semble.
Contre Saumur, ouais, ben voilà. Ça va être un match
assez... Non, ils ont gagné à Lorient, excuse-moi.
Ah, ils ont gagné à Lorient. Oui. Mais ça va être un match assez compliqué. Maintenant, on est sur 2 victoires à domicile. Il faut qu'on arrive à enchaîner la troisième. Comme on dit, jamais 203. Mais après, le match n'est pas joué, ça va être compliqué. À nous de mettre les ingrédients pour gagner ce match.
Voilà, et après, c'est Touré, donc le fan de Toulouse, puisqu'il est formé au TEF, comme on dit là-bas, au Toulouse Football Club. Eh bien, on était également avec David Gigel, l'entraîneur de la CFC, qui lui du coup est plutôt fan du FC Rouen. Et donc on était avec David pour débriefer ce match et on l'écoute également tout de suite.
Victoire contre Moulinsheer Foot ce soir 3-0, 4 points en 2 matchs sur la phase retour. Il fallait confirmer votre bon nul du côté de Gaulle, c'est fait ce soir.
Ouais, on avait envie de bonifier ce bon match nul ramené de Lyon, de Gaulle. Donc voilà, on a eu plutôt un match cohérent. On a été solide défensivement, c'est ce qui est important dans cette poule, et on a marqué, on a été efficace devant aussi. Sur la première mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose des deux côtés. Et voilà, nous, on a été efficaces sur les situations qu'on s'est créées. Donc, je félicite tous les mecs, tous les garçons, ceux qui vont aller jouer demain avec la réserve aussi, le groupe complet, parce que c'est une bonne chose de gagner à domicile. Il manquait un peu de points, mais ce soir, c'est bien d'avoir gagné.
Bon, et puis en termes de scénario et en termes de score, c'est un copier-coller de Nantes. Vous menez 2-0 à la mi-temps et puis le troisième but arrive assez rapidement en deuxième mi-temps. Le troisième but, c'est toujours le plus important dans le football quand il y en a un, et la soirée, il a été pour vous.
Oui, c'est ça. Ouais. On a été redoutable d'efficacité. C'est ce qu'il faut dans cette poule. Il faut être efficace à la fois défensivement et offensivement, et ce soir, on l'a été. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut vite se projeter sur le match de sa manière. C'est une équipe qui a de la qualité, qui était loin en Coupe de France, qui a encore gagné là à l'extérieur. Donc, il faut chaque match a son importance. Nous, on s'est fixé un challenge sur les 4 prochains matchs en termes de points et de classement. Donc, il va falloir être performant le week-end prochain, c'est ce qui est important.
Ouais, justement, Chamalières, ils ont gagné aux Herbiers, ils ont gagné aussi à Lorient ce soir. On dit qu'il est jamais simple de faire 2 matchs de suite consécutifs, mais vous êtes quand même encore en lice pour prendre ces fameux 6 points.
Ouais, c'est jamais simple, mais on sait où on doit s'améliorer. Ça a été un peu notre péché mignon sur la phase aller. On a perdu trop de points à domicile pour pouvoir être mieux classé.
Mais ça fait quand même 2 victoires de suite à Lebon, avec Sion contre Romo en plus.
Oui, tout à fait. Voilà, pourvu que ça dure. Non, il faut mettre les bons ingrédients. Ce soir, il y a eu beaucoup de générosité. On a été plutôt bien organisé aussi. J'ai été content aussi des relayeurs qui ont confié le coup de main nécessaire quand ils sont venus sur le terrain. C'est comme ça qu'on pourra avoir des résultats en ayant un vrai esprit de groupe et en pouvant compter sur tout le monde. Encore une fois, tout le monde sera important dans ce championnat qui est compliqué.
Bon, et pour finir, justement, dans ce championnat hyper homogène, il y a des soirs où il y a eu des mauvaises opérations, notamment quand vous aviez perdu à Trélissac. Ce soir, c'est vraiment une bonne opération parce que, à la fois, les deux de devant, Lorient et Saumur, n'ont pas gagné. Et derrière, il y a pas mal de défaites. Donc, vous rattrapez des points, vous clignotez quelques points et vous prenez aussi des points par rapport aux équipes qui sont derrière vous.
Oui, il faut qu'on regarde notre parcours. C'est bien de grignoter par rapport à ce qui est devant et par rapport à ce qui est derrière, mais ce qui serait important, c'est que nous, on sache où on veut aller et ce qu'on met en place surtout pour y aller. On avait fait une bonne semaine d'entraînement, elle est conclue par un bon match aujourd'hui. On prend pas de but. Et encore une fois, j'insiste souvent là-dessus. Et les équipes qui prennent pas de but, elles sont en général bien classées.
Donc vous confirmez votre statut de meilleure défense?
Oui, c'est bien. Et des fois, c'est la preuve qu'on a des garçons qui sont consciencieux et qui sont concentrés. Parce que quelquefois, des équipes qui mènent 2-0 ou 3-0, elles peuvent se laisser un peu aller et prendre un but sur coup de pied arrêté ou sur un mauvais positionnement. Et nous, on a réussi. On n'est pas sorti du match même à 3-0, on a continué à bien défendre ensemble. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et il faut qu'on le garde parce que c'est essentiel pour les championnats.
Et d'ailleurs, pour conclure, sur le secteur défensif, il y a le retour de Baba Touré ce soir. Alors, oui. Je sais que les coachs n'aiment pas trop changer leur charnière centrale, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle aussi d'avoir le retour de Baba.
Ouais, ça va amener, il va nous amener toute son expérience, toute sa qualité dans le jeu aussi. Donc, on est content que plus on a de joueurs qui sont disponibles, plus on est content. Voilà, il a fait un match cohérent ce soir aussi à l'image de l'équipe. Donc, c'est plutôt une bonne chose.
Et donc, rendez-vous la semaine prochaine à Lebon à 18h contre Chamalières.
Exactement. Et encore une fois, il faut qu'on se prépare bien. Et voilà, ce sera encore certainement un contexte encore différent contre une équipe qui a de la qualité offensive. Donc à nous d'être dans nos points forts et de faire une bonne performance pour pouvoir prendre 3 points.
Et la CFC n'en a pas fini avec Lebon puisque les Angoumoisins rejouent samedi au stade Lebon. Un match en retard de National 2 qui devait se jouer au mois de janvier, mais comme Chamalières était encore qualifié en Coupe de France, eh bien le match est reprogrammé. Samedi, ce sera donc samedi à 18h, un match également important puisque la CFC en cas de victoire pourrait vraiment faire un trou par rapport à la zone rouge, donc important de vraiment de creuser les écarts avec le bas de tableau puisque ce championnat de National 2 est très serré. En Régional 1, eh bien, il y avait nos deux Charentais qui jouaient des matchs en retard. Cognac recevait Boulazac, une équipe de haut de tableau. Et malgré le fait que Cognac mène 1-0 à la mi-temps, c'est finalement Boulazac qui s'est imposé 2-1 au classement. Le lendemain, donc hier dimanche, la SAPC s'est déplacée au SAM, à Mérignac. Match nul de partout. La SAPC qui encaisse un but dès la première minute. Et c'est Noah Marchesso qui permet aux Angoumoisins d'égaliser à la demi-heure de jeu. En deuxième mi-temps, Lucas Métavant donne l'avantage à Angoulême 2-1, mais le SAM marque 2 partout à la 65e. Malheureusement, la SFC va finir le match à 10 puisque Thierry Lemaître va se faire expulser. Score final 2 partout. Plutôt un bon point. On rappelle que Mérignac était deuxième au classement et la meilleure attaque de la poule. Au classement, Cognac est 8e avec 16 points et la SFC est 10e avec 15 points. La SFC qui possède toujours un match en retard. C'est ce déplacement à Fethia qui avait été reporté. Et prochain match d'ailleurs, prochaine journée, hein, pour les Angoumoisins et pour les Cognacés. Cognac recevra Lormont samedi soir à 19h, tandis que la CFC recevra Mussidan dimanche à 15h. Donc deux matchs hyper importants face à des équipes qui jouent également le maintien. En Régional 2 en poule B, malheureusement deux défaites dans le clan charentais, avec les revers de Charente-Limousine à Périgny 3-0 et la défaite à domicile de Merpin 0-1 contre le FC Rété. En poule C, malheureusement également une défaite pour Jarnac qui s'incline contre le leader Nontron-Saint-Pardoux 3-1. En Régional 3, le derby qui nous intéresse puisque on va recevoir Yohann Lesquilleux dans Culture Sport dans quelques instants. Ruffec s'impose à Confolan 2-1. Confolan avait ouvert le score, mais c'est finalement Ruffec qui l'emporte et Ruffec fait la bonne opération puisque les Diables Rouges reviennent sur les talons de Limoges et de Noyers. Confolan reste dans le top 5 et avec une marge certaine par rapport aux équipes qui jouent le maintien. Et enfin, en poule F, victoire de Saint-Arnex contre Périgord Centre 2-0 et victoire de La Roche-Rivière 4-0 contre Soyaux. La bonne opération de La Roche-Rivière qui dépasse Ruel au classement. La Roche-Rivière est 10e avec 10 points, tandis que Soyaux est 6e avec 16 points. Saint-Arix consolide sa première place avec 28 points. Au niveau district, on était en Coupe des Charentes. Alors je vais donner les résultats donc des 8e de finale de la Coupe de Charentes, avec les qualifications de Verdi au pénalty à Moutier, la qualification de Bel Air contre Chasse-Neuil 2-1, la qualification de Bassot contre la réserve du Stade Ruffécois 3-2, la victoire de Ruel contre Jarnac 2-1, la victoire de Brie contre Mansle 3-1, la qualification de Montbron à Nersac 5-0, la qualification de Linard contre Fontavicky 5-0 et la qualification des Portugais du Gond Pontouvre 1 partout. Et c'est des Portugais qui sont passés au péno. Donc on va retrouver donc ces 8 qualifiés pour les quarts de finale. Il me semble que les quarts de finale ont déjà été tirés, mais je n'ai pas les affiches en tête. Et en tout cas, on retrouvera donc ces équipes en quart, ces équipes qui rêvent toutes d'une seule et même chose, aller le bon pour jouer la finale de la Coupe de Charente. Au niveau du foot féminin, on avait donc l'AEJ Soyaux qui jouait un match hyper important, capital pour sa survie en D1. C'était un déplacement à Rodez et malheureusement ça s'est mal passé pour Soyaux qui s'incline 1-0, un but marqué en deuxième mi-temps par les ruténoises. Et au classement, malheureusement, Soyaux avait l'opportunité de revenir à 3 points de Guingamp et de Dijon. Et bien malheureusement c'est Rodez qui revient à 3 points de ces deux équipes là. Soyaux est dernier désormais avec 5 points. Et c'est 6 points de retard sur Guingamp et sur Dijon, et malheureusement pour le maintien, ça devient très compliqué pour les filles de Michel Bradaya. En rugby, on va rappeler la victoire du SA15 contre Massy, 21-19. On vient de faire le débrief avec Fred dans le SA15 Mag Attitude. La défaite malheureusement de Cognac en national, la défaite de Cognac contre Dax à domicile 17-59. La défaite également de l'UBJ du côté de Bergerac en fédéral, une défaite 30-23 pour les jeunes de Guillaume Ajac. En handball, victoire de l'ETEC contre l'Union, victoire 28-19. L'ETEC qui est toujours deuxième au classement avec 34 points, c'est un point de retard sur Bruges. Et malheureusement, ça s'est moins bien passé en National 1 féminine puisque l'ACH et Cognac se sont inclinés. L'ACH s'est incliné à Rochechouart-Saint-Junien 30-18. Victoire, seulement une victoire de Rochechouart contre Angoulême. Si bien qu'au classement, Angoulême est désormais 7e avec 29 points et Cognac est 13e et dernier avec 14 points. En basket, ça va être 3 points qui font une différence énorme pour le LCB qui s'incline à domicile contre les Herbiers 61-57. C'est vrai qu'il y avait une super victoire à l'extérieur sur la journée précédente. Et bah malheureusement, les Couronnaises n'ont pas su confirmer cette victoire. Et malheureusement, elle retombe 10e au classement avec 5 victoires pour 11 défaites. C'est une victoire de retard sur Chantonnay, mais désormais deux victoires de retard sur les Herbiers, sur ce match Vendée et sur Riez. Donc l'opération maintien se poursuit pour le LCB. On va rester à la couronne pour parler de judo avec Julie Pierret qui était en lice du côté de Sofia ce week-end pour l'European Open Donc l'étape bulgare de ce circuit européen. Julie Pierret, donc en moins de 78, remporte la compétition en remportant tous ses combats. Elle bat au premier tour la Canadienne Coralie Godbout pour se qualifier en demi-finale. Et puis en demi-finale, elle bat l'Italienne Betty Vuk et se retrouve en finale contre l'Ukrainienne Anna Kazakova. Et donc Julie Pierret remporte ces trois combats. Elle avait fini deuxième en Belgique il y a 15 jours. Elle remporte donc l'or en Bulgarie. Et on retrouvera désormais Julie Pierret dans 15 jours du côté de Varsovie en Pologne pour une nouvelle manche de Coupe d'Europe. Donc on espère que Julie, qui tient la grande forme en ce moment, va confirmer à nouveau en Pologne et puis gratter de la confiance et des victoires et des points en ranking international. On va terminer par de l'athlétisme avec les championnats de France jeunes en salle avec Meta Tumba qui conserve son titre national du pentathlon. Donc bravo à elle. D'ailleurs, elle établit la deuxième meilleure performance de tous les temps française, hein, juste derrière Estelle Coffey qui avait fait 4023 points. Meta Tumba, elle a fait 3979 points. Voilà, c'était la favorite de la compétition. Elle a réussi à conserver son titre. Donc bravo à elle. Elle a confirmé son statut. Au niveau de la perche espoir, Capucine Boisseau prend la médaille de bronze. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle également pour le G2A. Et on avait également la course de rentrée de Sorna Lacoste qui revient tout juste de Floride. Sorna Lacoste qui s'était alignée donc à Metz sur 400 mètres. Victoire de Femke Bol, la Hollandaise qui établit la quatrième meilleure performance de tous les temps en 49 secondes et 96 centièmes. Sorna Lacoste est plus loin, malheureusement. Ça a été une course compliquée pour elle puisqu'elle termine ce tour de piste en salle en 54 secondes et 30 centièmes. Donc voilà, une rentrée avec le décalage horaire et puis toute la charge de travail qui a eu lieu en Floride, ça a été un peu compliqué. On se retrouve tout de suite dans Culture Sport avec Johan Equilleux, l'entraîneur de Ruffec. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Pascal Nourry, le correspondant du Stade Ruffecois, qui est toujours hyper pertinent sur toutes les photos et sur tous les textes qu'il écrit. Donc voilà, je vais passer un petit coucou, vu qu'on est dans la thématique du Stade Ruffecois. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat. Bonne soirée, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, bienvenue sur Attitude 98.3, 90.7. www.attitudefm.com. Vous êtes bien sûr Attitude. Nous allons passer ensemble une heure en compagnie de Johan Lequilleux. Notre émission, c'est Culture Sport, votre émission des sports, chaque lundi 19h-20h30. Et donc, bienvenue à Johan qui a accepté notre invitation. Johan, bienvenue.
Merci. Bonjour à tout le monde.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, exceptionnellement, Dédé ne sera pas là. Donc, tu auras le plaisir de répondre aux questions de Christian, à qui je lance le relais pour poser la première question.
Oui, bah salut Johan. Bon, Didier n'a pas précisé que tu avais martyrisé les défenses du niveau Ligue pendant 10 ans, hein, donc je le fais à sa place.
C'est gentil de rappeler.
Non, mais la première question, ça va être plutôt deux questions. On va parler de l'actualité passée et à venir, c'est-à-dire déjà ce tour de Coupe de Nouvelle-Aquitaine où vous avez affronté la semaine dernière donc Saint-Médard-en-Jal. Un peu spécial pour vous, puisque vous avez appris dans la semaine que la CFC, malheureusement, pour eux, avait fauté et donc que vous étiez à nouveau qualifié. Vous perdez 4-3, mais vous sortez la tête haute malgré tout de cette coupe.
Oui, oui, on sort avec de grands regrets. Donc, si on sort avec des regrets, ça veut dire qu'on a su rivaliser. Voilà, on a eu la chance d'affronter trois R1 des trois poules différentes avec des particularités différentes pour chaque équipe. Mais voilà, c'est vrai que ce week-end est quand même rageant parce qu'on avait peut-être la possibilité de passer avec un petit peu plus de réussite et davantage de concentration dans des moments clés. Voilà, on a été beaucoup plus vulnérables et puis malheureusement, on a concédé. 4 buts sur, on va dire, 5 à 6 occasions. Donc, le réalisme a été chez l'adversaire, malheureusement.
Bon, c'est malgré tout positif de perdre 2-0 à la mi-temps et finalement d'être encore dans le match à l'heure de jeu.
Oui, complètement. Non, mais c'est ce que la première mi-temps était cohérente, et puis la deuxième, ben on a été forcément, on a déjà demandé aux joueurs d'aller un cran plus haut, de se prendre un petit peu moins la tête et puis de se concentrer davantage sur nous-mêmes plutôt que l'adversaire. Et puis voilà, on a su faire de belles choses. Le club était content, il y avait un petit peu de monde au club, mais même si lorsqu'on joue, on souhaite toujours créer des perfs, et ce week-end ça aurait été une bonne perf de sortir une nouvelle fois une OR1. Donc malheureusement, c'est comme ça, c'est terminé. Maintenant, c'est place au championnat qui est forcément la priorité du club.
Ouais, et puis tu l'évoquais, donc vous avez affronté et éliminé Royan au penalty, hein, partout, score oui. Final, et vous avez donc perdu sur le terrain mais éliminé la CFC sur tapis vert 3-2. Finalement, bon, après c'est vrai qu'on sublime toujours quand c'est la coupe, mais on voit que vous êtes capable d'élever votre niveau face à des équipes de R1.
Ah oui, complètement. Ben, on sait, dans ce groupe-là, il y a des joueurs qui sont confirmés. On a aussi des joueurs qui tentent justement à jouer un cran peut-être plus haut dans les années à venir. Mais on a un réservoir, on a des jeunes quand même qui montrent de très belles choses cette année. Donc c'est vrai que la coupe permet un petit peu d'élever son niveau de jouer contre des équipes qui hiérarchiquement sont supérieures à toi. C'est toujours des matchs de prestige. Donc c'est sûr que c'est toujours agréable d'affronter des équipes de R1. L'année dernière, on était en R2, donc là, on se dit, on joue contre une équipe qui est hiérarchiquement deux divisions au-dessus. Donc, ça laisse des matchs assez palpitants, et d'autant plus à domicile.
Oui, puis c'est vrai que quand on regarde les premières places dans votre poule, donc ta poule C de R3, il y a quand même Limoges qui après avoir déposé le bilan, remonte de première division. Et on sait qu'un club comme Limoges qui joue au Stade Saint-Lazare, c'est quand même un des clubs phares de la région, et ils aspirent à retrouver, je pense, au moins le National 3 à court terme. Et puis Noyer aussi qui a été longtemps en DHR, donc il y a quand même de la sérieuse concurrence.
Voilà, donc on a pas mal de matchs à l'extérieur sur la seconde phase, mais j'ai envie de
dire. D'ailleurs, je te coupe, mais comment tu as réagi quand tu as pris, après c'était relativement logique d'être avec Limoges, mais comment tu as réagi quand tu as vu qu'ils étaient dans votre poule?
Forcément, comme tout le monde, on se dit ça c'est une équipe qui va prétendre à la montée, c'est une équipe qui a forcément un réservoir, parce qu'il y a quand même il y a une politique jeune qui est plutôt cohérente. Et puis on le voit bien, leur groupe première est quand même constitué de beaucoup de joueurs qui sont issus de l'école de foot, donc on sait pertinemment que ils ont la possibilité de récupérer, ils ont un bassin de vie qui est beaucoup plus important que le nôtre. Donc c'est vrai que comme je vois au mercato là, ils ont recruté un ou deux joueurs, donc chose que nous on a un peu plus de mal à faire. Mais forcément c'est une équipe qui comme tu l'as dit, Limoges n'a rien à faire en R3, ça c'est certain. C'est une équipe qui devrait être au niveau national, ça c'est sûr.
Ouais, d'ailleurs le match aller s'était passé comment contre eux?
Un match assez tendu, on va dire que l'enjeu a pris le pas sur le jeu, malheureusement, d'un côté comme de l'autre. Il y avait beaucoup de tensions, alors que c'est deux équipes qui normalement jouent au ballon, et on n'a pas vu grand chose sur le match aller. Donc j'espère que le match retour sera quand même plus agréable à voir pour les supporters.
Ouais, un partout chez vous, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça.
Moi, je vais faire un petit focus sur ton attaquant, Condé, qui jouait à Basso la saison dernière en district et qui a fait le jump au niveau régional et qui répond à toutes tes attentes. Est-ce que tu peux un peu nous parler de lui, de ses caractéristiques? Et toi qui es ancien attaquant, est-ce que tu as une alchimie particulière avec lui, parce que vous occupez le même poste?
Alors c'est sûr que l'exigence elle est beaucoup plus importante chez lui, d'autant plus qu'on a toujours eu du mal à recruter un attaquant, chose qu'on a réussi à faire cette saison. Donc c'est un garçon qui est très attachant, qui s'est bien fondu dans le groupe et qui a des caractéristiques un petit peu différentes des miennes, qui brasse beaucoup, qui est généreux dans l'effort, qui est dur dans le duel. Qui par moment fait preuve d'inefficacité parce que il bouge beaucoup plus qu'un attaquant lambda, mais c'est vrai qu'il a réussi à trouver sa place et c'est vrai que l'équipe en devient de plus en plus dépendante, parce que quand il est pas là, ça sera le cas dans 15 jours à Husson, forcément ça change un petit peu l'animation offensive.
Vaut mieux ne pas l'avoir contre Husson du Poitou qui est lanterne rouge plutôt que contre Confolens.
Ouais, mais Husson vient de gagner 4-1 à Aix, ouais, et j'ai vu la trêve, ouais. C'est un autre championnat qui commence.
La montée en R2 ou vraiment essayer de continuer le tableau et puis on verra ce qui se passe, si vous êtes encore dans la lutte à 2-3 journées de la fin, comment tu vois un peu cette phase retour?
Non, mais clairement, c'est de. J'avais dit aux garçons, c'est d'être dans les trois premiers, c'est l'objectif que j'avais fixé en début d'année. Parce que j'avais des incertitudes aussi, je savais pas encore ce que ça allait donner au niveau de la jeunesse, et bon, pour l'instant ça prend plutôt bien. On n'a pas non plus une profondeur très importante de banc, donc ce qui veut dire que là on est dans une phase un petit peu plus difficile où les garçons étaient beaucoup sollicités depuis début janvier, et ça se ressent sur une fatigue générale, parce que c'est vrai que je fais beaucoup moins de turnover que les années précédentes.
Ouais, et puis c'est vrai que ce match contre Saint-Médard, il était vraiment bien joué, cool à jouer, sympa à jouer, mais du coup il vous économise pas un week-end de repos?
Non, parce que du coup, à partir du moment où on est dans une compétition, j'ai tendance à la jouer à fond. Ouais. Et cette année, voilà, et les autres années, je pouvais faire tourner sur des matchs de coupe pour donner du temps de jeu un petit peu à tout le monde. Là, je suis plus dans une dynamique de résultats. Donc du coup, on va voir effectivement comment ça va se passer là jusqu'à mars. Mais si à mars on est toujours dans le coup, même si ça paraît tôt, bien évidemment qu'on va jouer la montée.
Tu parles de groupe restreint, tu t'appuies sur combien de joueurs pour le groupe première de
J'ai un groupe de 22, si tu veux, mais il y a des garçons garçons qui mettent un petit peu plus de temps. On a, il y a eu quand même un effectif qui a été renouvelé avec avec quelques recrues et puis des jeunes. Et certains jeunes, pour l'instant, ont réussi à tirer leur épingle du jeu. D'autres mettent un petit peu plus de temps. Donc l'année prochaine, peut-être qu'ils sera, ils arriveront avec davantage d'assurance. Mais c'est vrai qu'on a sur les 22, on a un vivier de 16 joueurs pour l'instant qui se détachent. Oui. Et puis d'autres là qui mettent un peu plus de temps, qui ont de la compétence, mais qui mettent un peu plus de temps.
On rappelle qu'on est toujours avec Johan Lesquilleux dans Culture Sport, l'entraîneur du Stade Ruffécois. En tout cas, moi j'ai l'impression que vous avez vraiment bien digéré cette descente. C'est vrai que une relégation, c'est jamais facile. Parfois, il y a des départs et parfois, ben, on reste un peu dans la spirale négative. Vous, bon, il y a eu cet accident contre la réserve d'Aix-sur-Vienne sur le premier match, mais j'ai l'impression que vous avez bien réagi et que finalement, ben, c'est reparti un peu comme en 14.
Oui, c'est un peu ça. On a fait le deuil. On a mis du temps à digérer.
Oui, parce que c'est vrai que cette descente, elle n'était pas,
elle était pas
attendue.
Non, du tout. Pour être honnête, vraiment pas. Et je me voyais vraiment pas descendre. Et c'est vrai que même personnellement, je me posais beaucoup de questions sur un réengagement. Après, voilà, je voulais pas partir sur une descente vis-à-vis du club. C'était pas concevable. Et après, on a réussi à maintenir tous les maillons forts, tous les tauliers du groupe. Et puis surtout, on a de la fraîcheur psychologique avec l'apport de ces jeunes qui se posent moins de questions, n'ont pas subi une saison difficile l'année passée. Donc voilà, des garçons qui ont vécu une année difficile mais qui étaient ultra motivés, et puis des jeunes qui viennent et qui se posent pas de questions et qui nous permettent d'avoir une saison complètement différente que celle qu'on vient de vivre la saison passée.
C'est vrai qu'aussi tu avais connu la avec Christophe Balzer, il me semble que vous étiez en binôme à l'époque en coach. Vous avez connu la descente en D1 et puis derrière, vous étiez remonté jusqu'en R2. Est-ce que tu as l'impression que cette saison dernière, une descente ça arrive et puis c'est parfois un accident, mais même les accidents arrivent. Est-ce que tu as l'impression que ça marque un coup d'arrêt dans votre projet ou au final, c'était qu'un contretemps ou qu'une péripétie?
Je vais pas dire que ça fait nos affaires. Bien entendu que ça ralentit. La progression du club. Après, ça a permis aussi peut-être de donner la place à des joueurs. Si on était resté en R2, peut-être que moins de jeunes auraient intégré le groupe première. Bon, là, on descend d'une division, donc on reconstruit. Et puis, on a quand même un effectif qui est vraiment ultra jeune. Donc, c'est vrai que si on avait la chance de pouvoir jouer cette première place et remonter en R2, il est certain qu'avec ce jeune groupe, on pourrait estimer que le club aurait de belles choses à venir dans les années à venir.
Oui, parce qu'un groupe jeune dit forcément une marge de progression encore accrue.
Complètement.
C'est des jeunes d'ailleurs qui viennent de vos équipes de jeunes ou c'est des recrues que tu as pu faire à l'intersaison?
Alors non, on a des recrues forcément de l'intersaison, on n'a pas eu 50 000 non plus, on en a eu 4. Et puis après, on a des garçons qui sont issus de l'école de foot et puis d'autres qui ont intégré l'école de foot mais un peu plus tardivement, à partir des U15 et U17. Donc c'est des garçons qu'on a récupérés sur le vivier de la Vienne. Mais voilà, c'est un groupe qui est très homogène.
Est-ce que tu vois un lien de cause à effet avec le fait que vous ayez une section je crois au lycée Roquefleury, si je dis pas de bêtises? Et oui, puis deuxièmement, est-ce que c'est aussi une petite corrélation avec le fait que qu'il y ait ce magnifique tournoi organisé à Ruffec chaque fin d'été? Est-ce que du coup le club s'est retourné?
Je pense pas que, enfin, peut-être qu'indirectement le club est davantage connu via le tournoi, ça c'est certain, sur le bassin charentais, voire on va dire des départements limitrophes, forcément le club, tout le monde met un petit peu le pied dans l'enceinte sportive, donc on commence à connaître un petit peu plus le club. Après, pour revenir sur la section, pour l'instant on a on va dire qu'on a récupéré un jeune qui était de la Vienne également et qui est connu le club via la section. Donc pour l'instant, voilà, peut-être que dans les années à venir on verra davantage cette section. Elle vient juste de se créer, donc
c'est une section justement qui s'est créée en septembre là.
Non, ça fait un an qu'elle existe, mais
ils ont fait leur deuxième année,
donc faut laisser le temps un petit peu.
Il faut laisser le temps autant, comme on dit.
Exactement.
D'ailleurs, c'est une section que lycée où il y a potentiellement des collèges qui pourraient se porter candidature pour finalement avoir un cheminement collège puis lycée.
C'est un petit peu dans les tuyaux. Il y a un collège qui s'est manifesté, qui souhaite créer sa section dans le prolongement du lycée. Donc c'est en pour parler, ça risque d'aboutir peut-être certainement dans les 1 an, 2 ans à venir. Donc voilà, ça permet d'avoir une continuité de la 6e jusqu'à la terme.
C'est aussi un autre signe de la structuration du club chez les jeunes, et c'est forcément important de poser des bases solides dès le plus jeune âge.
Ah bah, oui, c'est exactement ça. Si les sections se créent, c'est qu'il y a un club support qui se développe, donc qui montre de belles choses. Donc voilà, tout ça est lié. Je pense pas qu'un établissement puisse entrevoir de créer une section sans avoir un club et un projet de club à côté de soi.
Nous sommes toujours avec Johan Lekieu, l'entraîneur de Ruffec. Et Johan, la prochaine question. Moi, je t'ai toujours connu à Ruffec, j'ai l'impression. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es au stade Ruffec, quoi?
C'est la 13e saison.
13e saison.
En 2010, ouais.
Janvier 2010. Et t'es reparti revenu entre temps, ou ça fait 13 ans?
Non, je suis toujours resté au club.
Ouais, donc depuis 13 ans, bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de changements qui ont été réalisés. Comment tu vois le club par rapport à il y a 13 ans? Est-ce que c'est le jour et la nuit, ou est-ce que finalement ça a été une longue structuration qui s'est opérée?
C'est quand même une longue structuration, puisque c'est un club qui a des infrastructures qui sont pas mauvaises, mais qui devraient peut-être être améliorées dans les années à venir. Mais c'est un club qui est très convivial, qui l'est resté. Il y a pas mal de choses qui ont été changées. Il y a une structuration au niveau des jeunes. Il y a des ambitions à la hausse pour le club. Voilà, tout ça prend du temps. Et c'est vrai qu'il y avait tellement de choses à faire que par moment, on a accentué le travail sur les jeunes, on oubliait un petit peu le haut, et puis maintenant on est un peu plus sur le haut, et puis on est vigilant quand même sur les petits. Bon, voilà, tout ça prend du temps, et maintenant on est sur le bon wagon, et il y a une structuration qui est cohérente de petits jusqu'à grands.
Comment tu es arrivé à Ruffec? Parce que c'est vrai qu'il y a 13 ans, donc on était en 2010, et c'est vrai que tu sortais de plusieurs belles saisons du côté de Châtellerault, du côté de Fétia, si je dis pas de bêtises.
Oui, enfin, du coup,
et de Poitiers. Est un buteur confirmé de R1. Comment finalement un buteur confirmé de R1 qui joue le tableau arrive à Ruffec? Alors il me semble qu'à l'époque ça devait être peut-être de la PHPL, non?
C'était de la première div.
Première div, oui.
Ouais, c'était la première div. C'est un choix de vie, un choix professionnel. Il y avait une opportunité que les autres clubs dans lesquels j'avais joué ne pouvaient pas m'offrir. Donc il y avait un poste à Ruffec, et la condition c'était de signer dans le club en première division. Donc je passais effectivement de DH à première division. Bon, ça méritait réflexion, mais bon, j'ai pas réfléchi très longtemps. Le côté professionnel a pris le pas sur le côté sportif, et puis au-delà de ça, c'est aussi l'entretien téléphonique que j'ai eu avec Laurent Fouillet, qui est actuellement le président. Voilà, ça a matché tout de suite et ça a fait toute la différence.
Ouais, et puis c'est vrai que depuis, c'est une belle aventure humaine que tu mènes, attaquant dans un premier temps, entraîneur attaquant dans un deuxième temps, notamment avec Anthony Lafort. Et puis c'est vrai que maintenant tu es en train progressivement de devenir de gommer le mot attaquant, et puis de grossir le mot entraîneur. Comment tu vis un peu cette transition?
La transition est...
Parce que c'est vrai que tu me dis depuis des années, je vais arrêter de jouer, et finalement chaque année tu rejouais parce qu'il fallait un peu dépanner.
Ouais, c'était un petit peu ça, et honnêtement, bon, le deuil est toujours pas fait, hein. Le fait d'arrêter, c'est difficile. Et puis on a eu des années Covid, on a eu des championnats qui ont été perturbés, donc on va dire que pendant 3-4 ans, un coup tu joues, un coup tu joues moins, tu te mets sur le côté parce que t'as besoin de diriger ton équipe, et puis forcément physiquement tu prends de l'âge, tu t'entraînes un peu moins correctement, donc tout ça se perd. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu 4 ans qu'on est sur le déclin en tant que joueur, donc ça c'est pas facile. Après je prends beaucoup de plaisir avec mes joueurs, je sais que j'aime ça, mais c'est vrai que d'un côté il y a toujours un petit peu le joueur qui dit mince, j'aimerais bien quand même jouer un petit peu au ballon, donc pas forcément au même niveau parce que maintenant j'ai plus le même âge, mais voilà, remettre tes crampons, m'amuser, jouer, c'est vrai que par moment, ça me tanne quand même.
En tant que jeune entraîneur, qu'est-ce que, si je te parle de l'épopée en Coupe de France que j'avais eu plaisir de suivre, ouais, ou plutôt de votre montée en R2, qu'est-ce que tu retiendrais en most best souvenir?
Moi, le meilleur souvenir, c'est la montée de D1 quand on était descendu en première division de district et remonté en R3. C'était une saison exceptionnelle. Sur le plan humain, sur le plan sportif, on était redescendu alors que le club venait juste de monter quasiment, donc on s'est dit mince, on descend d'un étage, et en fait comme un peu comme cette année, là, les résultats sont venus tout de suite, l'amalgame a été fait, et ça a été vraiment une saison géniale, voilà, donc ça c'est on va dire que c'est quasiment la meilleure saison.
On dit parfois reculer pour mieux avancer.
Oui, c'est bah, là en l'occurrence ça avait été le cas. Hein.
Ouais. Donc là j'espère que cette année ça sera la même.
Ah bah on espère.
Voilà.
Même si bah du coup c'est vrai que la concurrence s'annonce rude avec Limoges Noyer, mais bon après après tout reste possible. Et c'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière au téléphone, mais c'est vrai que la perspective d'avoir un match à Saint-Lazare, donc l'enceinte du Limoges FC, enfin de Limoges Foot maintenant, avec un énorme enjeu, ça pourrait être un truc vraiment super sympa.
Ah bah si effectivement il y a de l'enjeu, c'est qu'on est toujours dans le coup. Donc moi c'est vraiment ce qui m'importe, c'est qu'on soit pas distancé et que effectivement, bah, comme tu le dis, parce que je pense pas que Limoges va perdre 2 points, donc il faut que nous on reste collés à Limoges et à Noyer et puis avoir un match de prestige pour une accession.
Au niveau de ton staff technique, c'est vrai que tu avais collaboré avec Anthony Lafort, avec Jean-Pierre Bernard, qui a un peu d'expérience et qui est passé par de nombreux clubs. Est-ce que tu as un adjoint ou avec qui tu collabores du coup maintenant désormais?
Alors là, mon adjoint maintenant, c'est Bernard Ramblier, qui a été joueur avec moi à Poitiers, qui a une belle carrière de footballeur derrière lui, donc qui était encore joueur l'année passée, mais qui a passé la barre des 40, donc voilà, qui s'est mis aussi en retrait et qui apporte un petit peu toute son expérience auprès de la jeunesse. Et puis c'est un joueur à vocation défensive, donc moi vocation offensive, on va dire qu'on est assez complémentaires là-dessus.
Oui.
Voilà, c'est un meneur d'hommes, et puis il y a des garçons qui ont besoin, un peu comme l'était Anthony Lafort à l'époque, qui sait remobiliser les troupes quand ça va pas, qui sait aussi trouver les mots justes à un joueur qui est en plein doute. Donc ça c'est important. Et puis après j'ai un staff quand même assez large, c'est quand même un luxe. Voilà, j'ai Jean-François Audouin qui est avec moi aussi en tant qu'adjoint, mais moins présent que Bernard Rambillet, mais qui est toujours présent quand j'ai besoin de lui, notamment sur les week-ends. Et puis j'ai Thierry Bourriachon, un dirigeant, et puis Bernard Charbonneau, un accompagnateur. Donc voilà, on a aussi Fabien Guilbeault qui s'occupe des gardiens. Donc on a vraiment
un staff. C'est bien.
Ouais, voilà. Ça, c'est sûr que les joueurs là-dessus n'ont pas à se plaindre. Il y a du monde pour s'occuper d'eux.
C'est vrai que avec un adjoint plutôt défensif, eh bien, finalement, vous couvrez un peu toutes les zones du terrain.
Ah oui, c'est exactement.
D'ailleurs, je pense à Lilian Lasland qui avait été au Chamois un peu donner des cours aux attaquants. Est-ce que tu te considères aussi un peu comme coach des attaquants? Enfin, est-ce que je t'ai posé un peu la même question avec Condé, mais est-ce que t'as un rapport particulier avec eux?
Un petit peu plus, oui, forcément. Forcément. C'est par moment aussi, quand on le peut, je prends les attaquants sur quelques exercices. Forcément, la correction, je suis davantage pointilleux sur les attaquants parce que j'ai un peu plus de connaissances là-dessus. Et puis Bernard, lui, se concentre davantage sur les joueurs à vocation défensive.
Malheureusement, il y a une zone du terrain qu'on couvre pas forcément facilement. C'est la prépa physique, notamment la prépa physique d'avant-saison. Oui. C'est toi qui la gères, la prépa physique, ou il y a
Non, c'est moi qui l'a fait. Après, forcément, je me sers de mon vécu, des entraîneurs que j'ai côtoyés, avec des techniques, des méthodes différentes, aussi des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer aussi depuis ma prise de poste en tant qu'entraîneur. Donc,
notamment Jean-Pierre Bernard, qui est
qui a des compétences dans ce domaine-là. Donc, je m'en sers, et puis après, je rajoute ma patte forcément en tant qu'entraîneur. Donc, c'est bien moi qui m'occupe des séances de A à Z.
D'ailleurs, en parlant des coachs que t'as fréquenté, là, c'est plus le côté fan de tout ce qui est niveau national, niveau régional qui parle, mais qui c'est que t'avais connu comme coach du côté notamment de Châtellerault, Poitiers,
Moi, Châtellerault, j'ai eu en jeune, en 17 ans nationaux, j'avais Abdel Boisamin, non, qui est entraîneur de
Montpellier.
Ouais, j'ai eu Stéphane Moulin, pas sur une saison complète, mais sur une partie de la saison qui est maintenant à Caen.
Oui.
J'ai rencontré Philippe Leclerc qui est aussi qui est recruteur maintenant à Caen. Et puis après j'ai eu différents entraîneurs, David Leberti à Chauvigny, à Poitiers, Pascal Picard qui a fait un grand parcours aussi en coupe, des meilleurs d'hommes. Et puis j'ai eu aussi à Fethiye, avant d'arriver à Réfec, j'ai eu Carla Deba. Voilà, qui est conseiller technique. Donc, j'ai quand même j'ai côtoyé des entraîneurs avec beaucoup de compétences.
Plus beaucoup d'expérience comme un Pascal Picard qui a mené un peu sa moustache dans tous les coins et recoins de la Ligue de Centre-Est à l'époque.
Et oui, c'est ça. Ils avaient chacun des domaines différents, mais à chaque fois des valeurs humaines qui sont pas négligeables lorsqu'on est jeune joueur footballeur.
Nous retrouvons aujourd'hui Johan Lequilleux qui répond à Christian de Christian. Christian, c'est à toi.
Sur Football Manager, alors du coup, parce que moi je joue pas mal à ce jeu, on parle d'entraîneur en costard et d'entraîneur en survêt. J'imagine que t'es plutôt dans la team des survêts.
Ouais, Je suis plus en survêt. De toute façon, déjà de par mon métier, et puis même dans ma façon d'être, j'aime bien être comme mes joueurs. Je me mets pas à part. Donc voilà, moi j'ai le survêt. J'ai pas les crampons, mais j'ai le survêtement et les baskets. Voilà.
Oui, de toute façon. En se considérant encore comme joueur dans l'âme, forcément, on est proche de son groupe.
Oui, c'est.
Et puis en plus, j'imagine que t'as des joueurs avec qui t'as joué.
Ah oui, il y a des garçons avec qui j'ai joué pendant plusieurs années. Donc effectivement, on a toujours le sentiment d'être proche de ces joueurs. Enfin, du moins, je l'essaye. Enfin, j'essaie de le faire, mais tout en gardant aussi une certaine distance pour qu'ils comprennent que voilà, il y a une partie, il y a la partie amicale, mais sur le terrain, il n'y a plus de copains, quoi.
C'est un peu comme quand on est joueur, il y a l'homme en dehors du terrain, et puis quand on rentre sur le terrain, on est presque un autre homme parfois.
C'est un peu ça, ouais. Mais bah, après les joueurs l'ont bien cerné. Hein. Ça fait un petit bout de temps que l'entraîneur-joueur que déjà j'ai essayé de le mettre en place, et c'est encore plus facile lorsqu'on est vraiment de l'autre côté de la barrière.
On rappelle qu'on est toujours avec Johan Lesquilleux dans Culture Sport, l'entraîneur du Stade Ruffécois. Bon, et puis moi je voudrais parler aussi d'équipe réserve qui est encore qualifiée en Coupe de Charente. Alors vous êtes fait éliminer malheureusement contre Saint-Médard-en-Jalles, mais eux sont qualifiés contre
Aigre.
Cette équipe réserve, du coup, l'objectif c'est d'agréer les jeunes et puis de se maintenir vraiment en D2, surtout que la poule elle est vraiment costaud de cette poule A.
Mais la poule, ouais, elle est assez relevée. C'est un groupe effectivement qui est, comme tu l'as précisé, qui est jeune, qui est renforcé sur certains week-ends par les joueurs de mon groupe, qui a eu du mal aussi à rentrer dans son championnat, qui maintenant, on va dire, commence à être sur une dynamique plutôt intéressante avec une victoire en championnat à Aigre et puis confirmation en coupe. Donc ce match de Basso, il est aussi important, même si c'est pas, on va dire que si on se faisait sortir, ça serait pas dramatique, mais si l'exploit pouvait être fait, ça serait encore mieux pour les garçons, parce que psychologiquement on a besoin d'une série de victoires. Et puis quand on est jeune, on va dire qu'on est un peu plus vulnérable, et le doute peut rapidement s'installer. Et ça, le club est vigilant par rapport à ça, et puis l'éducateur aussi, qui est Sébastien Roulin, reste avec son adjoint David Uzé, il reste vigilant là-dessus. Donc le plus important, c'est vraiment le maintien, parce qu'il faudrait pas que ce club, que l'équipe réserve descende en troisième division, parce que là, ça serait plus qu'un pas en arrière.
Il y a deux divisions d'écart entre les deux équipes, c'est bien, deux divisions d'écart R3 D2.
Ça serait mieux si ça serait encore meilleur pour le club s'il y avait qu'une division, parce que on est qu'en R3, donc l'idéal ce serait d'avoir une réserve en première division de district, et puis d'avoir une première en régional 2. Donc ça a toujours été les ambitions, on va dire, du club. On n'a pas réussi pour l'instant, mais on lâche pas, et puis on va essayer. Donc ça, pour cette année, ça paraît compromis pour une montée, mais le plus important c'est de se maintenir et puis faire une grosse saison l'année prochaine pour le groupe réserve.
C'est moi qui m'occupe du championnat des étoiles pour la Charente Libre, donc je remercie d'ailleurs Sébastien Rollin au passage, qui vote à chaque fois et qui n'a pas raté un seul vote, donc je le remercie. Je découvre quelques joueurs, notamment au milieu de terrain, Maxime Picard, je crois.
Valentin Picard,
qui avait eu les deux premières étoiles de la saison, et puis devant, forcément Mathias Grondin, qui est aussi salarié au SA15, et Lucas Beau. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces joueurs et de ce groupe? Tu parlais de jeunesse, il y en a aussi en bêche.
Oui, il y en a en B, puis on va dire que les deux tiers des joueurs que tu viens d'évoquer, je l'ai déjà eu dans soit l'entraînement ou soit même en championnat avec moi. Bon, Lucas Beau, c'est un garçon qui a un gros potentiel, mais qui a été intégré peut-être un petit peu trop tôt avec le groupe première. Donc il avait 16 ans et demi, donc c'est pour vous dire, il était doublure.
Ouais, c'est un gardien, il me semble, c'est ça.
Ouais, c'est un gardien, voilà, qui a pas su trouver sa place au début, ce qui est normal parce que la différence d'âge était trop importante. Maintenant, il se retrouve avec des similitudes avec beaucoup de joueurs du groupe première, parce que ils ont quasiment le même âge. Donc, et puis maintenant, les ambitions pour lui sont vraiment à la hausse. Lui, il est vraiment dans une perspective de gagner sa place et puis de bousculer la hiérarchie.
Donc, ça, c'est bien. Rentrer en concurrence avec la Fréchou.
Exactement, ouais. Ouais. Donc, puis Tanguy, il fait une très bonne saison, mais c'est bien d'avoir des gardiens. On a aussi Jean-Noël Fourgeot qui est avec nous. On a trois bons gardiens, donc ça c'est très bien. Et puis après, au milieu, pour Valentin, donc ça c'est pareil, c'est un jeune que j'ai croisé dans mes années éducateur jeune à Ruffec, qui est en train de tirer son épingle du jeu, qui surprend beaucoup de monde, parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il arrive à un niveau comme celui-ci, et d'autant plus et de le maintenir. Donc ça c'est très bien. J'ai forcément un œil dessus, donc moi j'ai qu'une chose à lui dire, c'est qu'il confirme, qu'il continue à travailler. Donc ça c'est bien. Et puis pour ce qui est de Mathias qui a déjà joué en groupe première, qui euh,
qu'il y a eu des moments aussi un peu des irrégularités qui l'ont pénalisé. Mais c'est vrai que cette année, il s'entraîne avec le groupe. Je pense que ça lui fait du bien. Et puis le fait d'emmagasiner de multiples matchs et puis surtout de confirmer chaque week-end par des buts, c'est ce qui manquait au groupe réserve. Donc c'est bien d'avoir un leader offensif comme Mathias pour ce groupe-là, parce que Sébastien en avait besoin.
Oui, c'est vrai qu'il marque un doublé, je crois, contre Aigre en championnat. C'est lui qui avait eu les
ouais,
toiles,
bah,
d'ailleurs.
C'est ça.
Ouais. Ce qui est bien dans mon discours, ce qui est pas forcément le cas de tous les coachs, c'est que on sent vraiment une passerelle entre la première et l'équipe réserve, alors que parfois, les équipes premières sont un peu coupées du reste du club au final. C'est pas du tout ton discours à toi.
Non, c'est pas du tout le discours que j'ai et qui est partagé. Le discours que j'ai est partagé par le groupe réserve. Il est partagé aussi par le président et par le vice-président. On peut pas se permettre de d'évincer et de faire deux clubs dans un club. Ça fonctionne pas. Et puis, nous, on le voit, la préparation physique, le stage de début de saison, il est en commun. Après, chacun s'entraîne de son côté, mais on a les mêmes jours de séance d'entraînement. Donc, ça permet, si à un moment donné, il y a un besoin de joueurs ou si il y a des joueurs qui sont moins bien, ils peuvent s'entraîner avec Sébastien et inversement. Et puis, il y a une très bonne entente entre les éducateurs. Donc, ça, c'est forcément, c'est beaucoup plus facile. Et puis, après les entraînements, c'est quand même beaucoup plus sympathique de partager un petit moment convivial dans le clubhouse avec tous les joueurs seniors.
Tout à fait. Et puis, en plus, pour eux, c'est intéressant de s'entraîner aussi avec des joueurs confirmés de R3. Ça fait hausser son niveau.
Oui, voilà, c'est pour montrer aussi que
Que la porte n'est pas fermée.
Voilà, la porte, elle n'est pas du tout fermée, bien au contraire.
Ouais. Et puis, j'ai vu aussi que vous avez une équipe C en 3e division.
Oui.
Alors là, c'est quoi le profil? C'est plus des anciens qui prennent encore plaisir à jouer, ou est-ce que c'est encore des...
C'est un peu des deux. Hein. C'est des anciens effectivement qui sont quelques-uns sont en, on va dire, en fin de carrière, et puis aussi des jeunes qui mettent aussi comme c'est le cas pour la première, qui mettent un peu plus de temps à se mettre dans le niveau deuxième div. Donc en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'une seule division d'écart. Donc ça veut dire que quand un garçon ne joue pas en réserve, s'il joue avec l'équipe C, j'ai envie de dire, une division, c'est pas la fin du monde, c'est pas la cinquième division de district. Donc il faut savoir que la réserve, il y a quelques années, était en troisième div. Donc l'équipe C est montée au niveau de la réserve. Donc ça, c'est bien. Voilà. Et puis il y a aussi de la concurrence en première, donc il y a des redescentes. Donc il y a des garçons qui mériteraient de jouer en deuxième division. Mais oui, forcément, qui dit redescendre, dit choix, et puis il y a des joueurs qui se retrouvent à jouer en troisième div.
Il y a certains joueurs de D2 qui sont du coup obligés de repasser avec la D3, puisque des joueurs de la première viennent renforcer la B, bien sûr.
Oui. C'est surtout que voilà, il y a...
On peut pas mettre 18 joueurs sur le banc de touche, malheureusement.
Non, et pourtant c'est pas toujours simple, parce que on va dire que la culture de l'entraînement a été acquise pour la majeure partie des joueurs. Tout le monde vient à l'entraînement, que ce soit pour le groupe première, mais aussi pour le groupe réserve. Il y a toujours 15-20 garçons que du groupe B, donc c'est pas toujours facile pour Sébastien quand tous ces joueurs viennent à l'entraînement et que moi je vais faire redescendre 5-6 joueurs. Forcément, il y a des garçons qui ont fait deux séances mais qui n'ont pas le choix, vont devoir jouer en équipe C.
Vos joueurs d'ailleurs au sein du stade Ruffécois, ils sont tous sur Ruffec Sud-Vienne, ou il y en a certains qui viennent d'Angoulême?
Il y en a qui viennent d'Angoulême. Enfin, moi pour mon groupe par exemple, Mamadi Condé, Vincent Da Silva, Elias Lebny, oui. Et j'en oublie certainement, hein, mais voilà, il y en a qui viennent d'Angoulême, il y en a qui viennent de Poitiers, qui sont étudiants, et puis après, le reste, c'est des Ruffécois.
Ouais, parce que c'est vrai que on avait reçu certains coachs charentais, notamment dans le rugby, hein, qui nous disaient que c'était un peu enclavé leur territoire et que c'était compliqué de recruter. Vous, au final, vous êtes pas mal placé. Vous êtes entre Angoulême et Poitiers. On dit qu'Angoulême est pas forcément une grande ville universitaire, mais du coup, vous avez fait la moitié du chemin pour aller à Poitiers.
Un peu ça, mais pour autant, c'est pas facile. D'autant plus que lorsqu'on descend en R3, déjà qu'en R2, c'est pas évident, parce que on veut pas faire n'importe quoi dans le recrutement. On veut pas non plus faire des choses que le club ne pourrait pas supporter. Donc on est vigilant par rapport à ça. Et puis la concurrence reste rude, que ce soit dans la Vienne ou Angoulême. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent R3, beaucoup d'équipes qui jouent R2. Donc faire venir un joueur à Ruffec pour lui vendre un projet sportif, le joueur peut l'entendre.
Oui, mais finalement, il en a un pas très loin de chez lui aussi.
Exactement. Et puis, au bout d'un moment, on connaît bien, vous le savez très bien, l'évolution du coût de la vie, le coût de l'essence. Un joueur qui vient, même si on peut rembourser les frais de route, à un moment donné, on peut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, il y a la barrière, et puis il est hors de question de faire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que on arrive à récupérer des joueurs, mais quand le joueur il vient, il sait où il met les pieds, et quand il repart, c'est parce qu'il a vraiment pas le choix.
On rappelle qu'on est toujours avec Johan Lesquilleux dans Culture Sport, l'entraîneur du Stade Ruffécois. Tu es coach de Ruffec, mais t'as aussi la casquette de directeur de la Coupe Cristalline du tournoi national U11 du Stade Ruffécois. Alors, on t'avait reçu avant l'édition 2022. Est-ce que tu peux nous tirer un bilan de cette édition qui s'est déroulée au mois d'août en 2022?
Eh ben, ça a été plus qu'une réussite, puisqu'on avait réussi à récupérer 8 clubs pro, à attirer de nouveaux clubs régionaux et départementaux. On a hébergé plus de 500 personnes. On a eu 63 équipes sur les 64 escomptées, parce qu'on a eu un désistement de dernière minute. Mais on sent au-delà de l'investissement des bénévoles, on sent une assurance de beaucoup de personnes, puisque on a nos habitudes, mais malgré un renouveau d'équipe, ben le retour il est toujours positif. On se remet toujours en question, on essaye toujours d'améliorer les choses, et on a des retours positifs de clubs comme nous, et on a des retours positifs de clubs qui ont un standing beaucoup plus important, donc des personnes qui ont la responsabilité dans les clubs pro ne disent que du bien du tournoi, donc ça c'est bénéfique, ça a autant de valeur bien évidemment qu'un petit club qui vient, bien sûr. C'est super quoi, donc tout le monde y trouve son compte, donc pourvu que ça dure, j'ai envie de dire.
Et le palmarès, alors qui avait remporté le tournoi?
Alors en U13 c'était l'Étoile Bleue de Saint-Cyr.
Saint-Cyr à l'école dans les Yvelines?
Non, c'est dans le 45, il me semble, de mémoire.
D'accord, ok.
Je crois que c'est un club dont le partenaire est Diallo, l'ancien joueur du PSG.
Ok, d'accord.
Il me semble.
Bien connu à Angoulême aussi.
Voilà, exactement. Voilà, une très très grosse école de foot et qui est en train de tisser des liens avec beaucoup de clubs professionnels, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui partent très vite.
D'accord.
Qui quasiment des pré-contrats, donc voilà, une grosse équipe, et puis en U11 ça a été le Stade Malade de Caen. Voilà.
Bon, peut-être, moi j'avais connu à Angoulême lors du tournoi U11 qui existait auparavant, le jeune Hannibal Mejbri qui est maintenant à Manchester United et qui avait remporté le tournoi avec le Paris FC. Peut-être que il y a des petits gamins qui ont foulé la pelouse d'Henri Lacombe qui seront en Ligue 1 ou plus haut dans quelques années.
Exactement. Alors, c'est vrai que j'ai fait une bêtise dans les premières années, c'était de ne pas conserver les feuilles de match.
Ouais, notamment
les Girondins. Hein. Voilà, les Girondins étaient venus en 2010. Donc voilà, on se dit que peut-être il y a des garçons qui ont foulé la pelouse du complexe, c'est probable.
Oui.
Mais maintenant je conserve toutes les feuilles, comme ça je vais pouvoir suivre un petit peu, regarder s'il y a des pépites qui vont éclore.
En club pro, vous aviez eu qui alors la saison dernière?
On a toujours nos habitués. On avait Caen, on avait Brest, on avait Guingamp, la JOCR.
Ouais.
Là, on avait le SCO d'Angers, on avait le Mans. J'en oublie certainement. Là, vous me prenez de court. Et Toulouse aussi. Toulouse qui est venu cette année. Donc il y avait le président de l'association de Toulouse qui était venu, le président de l'assoc de Caen aussi, qui était très surpris de la qualité du tournoi, la qualité d'accueil du club. Donc voilà, on va essayer de conserver ces clubs-là et puis éventuellement essayer de récupérer un ou deux clubs de plus, mais on s'arrêtera à 10 clubs pro max.
Parce que finalement, j'imagine que les terrains sont pas extensibles, donc
alors c'est pas une question de terrain, c'est surtout une question.
Tu pourrais par exemple augmenter le nombre d'équipes qui participent, de clubs, je veux dire,
de clubs. Non, là je suis quasiment au max, mais si tu veux, je veux pas qu'on se retrouve avec un club un tournoi qu'avec des clubs d'élite.
Ouais, d'accord.
Voilà,
ouais.
Je veux que tout le monde
Oui, il faut vraiment garder un juste milieu entre pro, régionaux et puis vraiment départementaux.
Oui, c'est vraiment le souhait. Voilà.
Et ouais, c'est vraiment cool, en plus pour les jeunes de Charente. Alors je sais pas exactement quel club était présent au niveau départemental, mais quand on a par exemple des affiches comme alors je vais prendre un hasard, un Ruffec Lille ou un Ruffec Caen, ça met forcément des étoiles dans les yeux des jeunes Ruffecois par exemple.
Ah bah c'est surtout qu'en fait au moins sur la première phase, chaque club peut prétendre à affronter un club professionnel. Forcément après, avec la seconde phase, bah ça on va dire que le niveau se resserre, mais tout le monde a la chance d'affronter quasiment un club professionnel.
2022, bilan positif, or très positif. C'est vrai que sur ce genre de tournoi, c'est le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui fait un peu le nerf de la guerre au final.
Exactement. On sait que ça prend du temps. Maintenant, on se rend compte que, je veux pas qu'on ait la prétention de dire qu'on est une référence, mais les gens quand même se servent un petit peu de ce qu'on fait, ça leur donne des idées pour leur tournoi. On m'appelle aussi pour me demander mon avis sur une organisation type, donc ça veut dire que on travaille correctement, donc ça c'est bien, on commence à avoir des échanges avec d'autres responsables de tournoi, on donne quelques billes, donc ça c'est bien. Le président souhaite qu'on devienne pas une référence, mais qu'on soit un club assez support de multiples tournois. Donc là on a notre tournoi de qualification, enfin pas tournoi de qualification, tournoi de découverte le 16 avril où certains clubs vont pouvoir venir et le gagnant en U11 U13 obtient sa place.
Ah sympa ça.
Sa place.
C'est un tournoi qui est réservé aux clubs charentais ou il y a aussi des clubs de
des clubs des alentours, pas que charentais, de la Vienne, okay. De Vienne. Donc ça c'est le dimanche 16 avril, mais le samedi 15 il y a aussi le tournoi. On veut mettre en place un tournoi pour les filles, donc un tournoi féminin.
D'accord.
Et puis fin juin on va organiser un tournoi pour les U9. Donc voilà, ça fait féminine U9, enfin U8, U9, U11, U13. Donc ça commence à prendre de la place, mais c'est une volonté du président et puis une volonté du club en général. Donc on a de la chance d'avoir des bénévoles qui sont en or, donc on continue.
Oui, ça prouve aussi vraiment le dynamisme du club. Tu parlais des bénévoles, c'est aussi hyper important d'en avoir et qu'ils répondent présents et qu'ils prennent aussi du plaisir à faire ce qu'ils doivent faire.
Ah bah oui, après on a deux styles de bénévoles. On a des bénévoles qui viennent et qui s'investissent sur les manifestations. On a d'autres bénévoles qui sont d'ailleurs en permanence dans l'enceinte sportive.
Sur le tournoi par exemple en 2022, il y avait combien de bénévoles environ?
Entre 80 et 100.
Ah oui.
Mais de toute façon, on n'a pas trop le choix. Il y a l'hébergement, il y a la restauration, j'en passe des meilleurs, mais il y a aussi la mobilité avec les minibus, il y a le service, il y a l'arbitrage, il y en a beaucoup. Donc après, chacun peut s'investir selon ses moyens, soit sur une journée, soit sur deux journées, mais c'est un tournoi qui mobilise l'ensemble du club, et quand je parle de mobilisation, je parle également des joueurs. Les joueurs seniors sont mobilisés sur cette manifestation.
Oui, c'est bien ça. Ça fait vivre tout le club.
Ah ben, tout le monde était petit, hein, donc si personne ne donne un coup de main, c'est bien de montrer l'exemple, quoi.
C'est vrai. D'ailleurs, t'as des joueurs.
Ouais, dans une émission, tu avais dit que t'avais des clubs qui réservaient leur place dès la fin du tournoi.
Oui, c'est ça. Ah ouais, il y en a qui bloquent déjà. Donc, mais après, on relance assez.
C'est un signe de reconnaissance, ça.
Ah bah complètement, c'est on va dire que c'est un tournoi de début de saison, ça a pas été simple au départ parce que tout le monde ne reprend pas tôt. C'est, si on veut faire le tournoi au mois d'août, fin août, il faut s'entraîner au moins 15 jours à l'avance, au moins.
C'était d'ailleurs l'une de mes prochaines questions, Johan. C'est vrai que généralement la plupart des tournois jeunes sont en fin de saison, oui. en mai ou en juin. Vous êtes au mois d'août, comment c'est ressenti, comment c'est accueilli par les clubs, notamment les clubs
pro? Maintenant, c'est un peu rentré dans les mœurs. Au départ, ça bouleverse un petit peu les habitudes. Mais de fil en aiguille, chaque club sait que le dernier week-end d'août, il y a le tournoi de Ruffec. Donc on s'y prend de plus en plus tôt, prévient les familles de plus en plus tôt pour avoir une équipe qui tient la route. Voilà,
vous avez moins de concurrence que peut-être que si vous étiez calé sur mai-juin ou pas?
Au départ, je suis pas persuadé qu'on aurait pu faire autant de belles choses si on l'avait mis fin d'année. Il y a tellement de beaux tournois qui sont organisés.
Oui, notamment celui de Cognac au mois de juin.
Il y a Cognac, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que fin août, ça nous a permis de nous différencier un peu des autres. Après, il y a d'autres clubs, sans les citer, qui ont essayé de lancer un tournoi fin août, qui n'y sont pas parvenus parce que la majeure partie des clubs qui sont autour de chez nous viennent à Ruffec et vont pas ailleurs. Donc c'est bien, c'est c'est vraiment c'est une super vitrine du club et puis de la ville de Ruffec.
Combien de temps il vous faut pour préparer ce genre de tournoi? Est-ce qu'il vous faut vraiment un an ou est-ce que...
Non, c'est pas, on va dire qu'on l'échelonne sur une année. Après, il y a des réunions qui sont programmées, mais le fait d'avoir un tournoi récurrent avec des personnes à des postes qui ne changent pas chaque année, nous font gagner beaucoup de temps.
Oui.
Et chacun sait ce qu'il a à faire. Après, forcément, quand on arrive à un mois de l'événement, on est vraiment dans le speed, dans l'urgence, parce qu'il faut toujours combler peut-être certains oublis ou voilà des petits détails de dernière minute. Mais on va dire que toutes les grandes orientations, elles sont déjà préparées par les différentes personnes qui constituent le comité de pilotage.
Bon, et parle-nous du tournoi 2023. Alors, j'imagine que le plateau n'est pas encore complètement finalisé, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce tournoi? Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration par rapport à 2022? Et est-ce qu'il y aura encore ces clubs de renom et d'autres noms que tu peux nous citer déjà?
Alors, des nouveaux noms, non, parce qu'il n'y a pas encore, on n'a pas encore Laval, mais on y travaille. Et je sais que mon président aussi y travaille.
Ouais, parce que Laval, ils sont en Ligue 2.
Non, Laval, d'accord, pardon.
Oui, j'ai bien compris, c'est la blague du jour.
Non, mais voilà, on va essayer de récupérer un ou deux clubs pro, mais peut-être de Ligue 1 supplémentaires. Après, normalement, c'est qu'une supposition, mais je pense qu'on aura les clubs qui sont déjà venus l'année dernière. On va essayer de les garder. Et puis après, ce qu'on souhaite surtout améliorer, pourtant, Dieu sait qu'on est bon dans l'accueil, mais d'avoir une vraie fête le samedi soir. Au club après la première phase. Donc c'est vrai que par moment on a tellement de personnes qui viennent manger et qui sont hébergées que on est un peu dans le speed. Là on va faire les choses différemment pour que tous les clubs puissent manger en même temps et faire une grosse fête. Ouais. Donc là, on a déjà réservé une banda qui va mettre l'ambiance toute la soirée.
Les améliorations, c'est plus vraiment maintenant le côté sportif, c'est ce qu'il y a vraiment autour du tournoi.
Le côté sportif, non. Après on est réglé. Enfin, sincèrement, on a du matériel, on a du bon matériel. Non. Après,
vous avez combien de terrains du coup à disposition?
Ça fait 7 terrains en tout, en fait.
D'accord.
7 terrains de jeu à 8.
Oui.
Donc là, voilà. Donc là, on va arriver dans une phase où pour nous, il y aura peut-être un changement dans les années à venir, parce que maintenant, il faut savoir qu'en U13, notamment dans certaines ligues, notamment les clubs pro, en U13, on joue majoritairement à 11, alors que nous, notre tournoi, ce qu'on propose, c'est du jeu à 8.
Oui, oui.
C'est ce qui va être un petit peu un frein. Donc, il faudra peut-être se pencher sur la question et savoir est-ce qu'on maintient U11, U13 ou est-ce qu'on fait un gros tournoi U11 ou un gros tournoi U13. À voir.
Il joue à 11 sur le même terrain ou sur un grand terrain?
Si c'est du foot à 11, ça devrait être sur grand terrain.
Oui, c'est ce que je me disais aussi.
Donc ça veut dire que nous, on a trois grands terrains et un terrain de jeu à 8. Donc ce qui veut dire que les trois terrains sont divisés en deux, donc ça nous fait 3 fois 2, 6, plus le terrain des à 8, ça nous fait 7 terrains. Si on passait sur du jeu à 11, forcément, on aurait que 3 terrains. Donc c'est
bien sûr. Ça réduit forcément le nombre de terrains, donc le nombre de matchs, parce que malheureusement, les journées sont pas extensibles et il faut aussi respecter un temps de repos pour les équipes.
Bien
sûr. Et puis surtout que les équipes n'attendent pas une heure entre les deux matchs.
C'est un peu ça. Faut que tout le monde, parce que tout le monde n'est pas hébergé, donc on peut pas se permettre de faire venir des personnes qui font 150 km et qui jouent un match et qui attendent 2h30 pour en jouer un autre. Ça, c'est pas possible.
Ça va être la combienième édition cette édition 2023?
14e.
Ah, je vois qu'il a révisé ses standards.
C'est ça. Non, mais ça se trouve, je dis une bêtise, hein.
En tout cas, 14, ça commence déjà à faire un beau chiffre.
Complètement. Oui, c'est ça. Mais
c'est la combienième d'édition que toi, tu vas chapeauter?
14.
Ah oui, d'accord, dès le départ.
Ouais.
Ce tournoi-là, j'imagine qu'il a évolué à pas de géant depuis 14 ans.
C'est un peu ça au fur et à mesure. De toute façon, lorsque le président avait demandé d'organiser un tournoi pour les jeunes, je partais du principe que le club méritait de faire un tournoi qui marque un petit peu les esprits. Et au fur et à mesure, on s'est professionnalisé, on a investi dans du matériel, on a tissé des liens avec des clubs locaux pour l'hébergement. On a élargi un petit peu notre réseau et puis on a professionnalisé aussi nos bénévoles.
C'est bien Culture Sport, votre émission des sports. Chaque lundi 19h-20h30, nous retrouvons Johan Lequilleux, qui répond aux questions de Christian.
on avait eu le plaisir d'accueillir Giroud du côté de Ruffec sur le tournoi. Je crois que c'est il est venu plusieurs années de suite. Est-ce qu'il va revenir cette année? Enfin, j'imagine que du coup il y a des liens qui sont tissés aussi avec lui.
Ah, bah, y a des liens qui sont tissés notamment entre lui et le président, mais à chaque fois qu'il revient, il a toujours une attention particulière auprès du club, des jeunes, des bénévoles. L'année dernière, il a pas pu venir parce qu'il avait une émission sur Europe 1, mais on espère qu'il sera parmi nous cette année.
On va lui demander de faire son émission en direct de Ruffec.
Comment ?
On va lui demander de faire son émission en direct de Ruffec.
Franchement, ça pourrait être pas mal.
Ah oui,
faut essayer.
Et puis c'est vrai que Giroud, la Charente, ça lui rappelle des bons souvenirs.
Ah bien sûr. Donc, mais même il a toujours des anecdotes assez sympathiques.
Ouais. Et puis c'est vrai que Giroud, alors si je dis pas de bêtises, là je fais mémoire à mes jeunes années où je collectionnais les vignes Panini. Et il me semble d'ailleurs que Giroud est né à Poitiers.
Oui, c'est ça.
Oui, exact.
Donc même si on connaît surtout Giroud avec les Géoxères, ça reste quand même quelqu'un qui est natif de notre ancienne région Poitou-Charentes.
Ouais, mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il aime revenir sur le territoire.
Ouais. D'ailleurs, est-ce que toi, j'imagine que sur ce week-end-là, t'es hyper occupé. D'ailleurs, comment tu fais pour conjuguer tes rôles d'entraîneur de l'équipe première? Parce que août, vous êtes forcément fin août, on espère que vous serez encore en Coupe de France, parce que les premiers tours de la Coupe de France, ça va tomber dans cette zone-là. Comment tu fais pour conjuguer l'équipe première et le tournoi, notamment sur ce week-end-là?
C'est jamais évident. Après, on va dire que la semaine qui précède l'événement, la journée, on travaille pour le tournoi. Le soir, on est pour l'équipe première. Après, arrivé fin de semaine, on stoppe les entraînements le jeudi pour laisser les terrains le vendredi. Et le week-end, je laisse mon adjoint généralement diriger le groupe, et moi je reste sur le tournoi.
Et comment ça se passerait dans l'hypothèse où vous, le Stade de Ruffec, vous receviez notamment en Coupe de France?
Nous, à chaque fois, si tu veux, à chaque fois notre secrétaire demande
soit
être exempté ou alors jouer à l'extérieur.
Ah quitte à passer un tour gratuit, autant être exempté.
Ouais, mais bon, c'est jamais arrivé.
Oui, mais j'imagine bien, parce que là on doit être au deuxième ou troisième tour à ce moment-là.
Non, c'est le premier tour.
Ah oui, c'est le premier tour, d'accord. Ah oui, donc si vous montez en R2, il y a moyen d'être exempté.
Ah, si on monte en R2, c'est ça.
Bon, on a balayé pendant presque une heure l'actualité du Stade Ruffécois, des Diables Rouges, comme j'aime à les décrire. En tout cas, ce qui est en rapport avec le tournoi, c'est vos équipes de jeunes, parce que non seulement il y a trois équipes seniors, donc en R3, D2 et D3, mais vous avez aussi des U17, des U15, des U13, des U11, toute la panoplie de l'école de foot, justement, elle est réunie, là.
Ah c'est ça. Et puis on a cette année on a une génération U15 qui est très bonne, bon, qui est certes au niveau district, mais qui est en niveau 1, donc ça c'est bien, tout comme nos U17.
Ouais.
On a aussi
niveau 1, donc on peut dire que c'est l'élite départementale, c'est ça?
Ouais, exactement. Ouais.
Ok.
Ouais, c'est ça. Et puis voilà, on a un petit réservoir qui est pas inintéressant en U8, U9, U10, U11. Donc c'est on essaye, si tu veux, de combler les trous qu'on peut avoir entre les générations, parce qu'on est un club rural, donc on n'a pas autant de licenciés ou autant de possibilités de licenciés que la CFC.
Oui.
Que Cognac ou que autre. Donc voilà, on essaye de combler, c'est d'avoir une continuité, une pédagogie qui est toujours adaptée à l'âge qu'on a, mais c'est surtout avoir une cohérence sur notre politique sportive, d'amener le joueur le plus haut possible, mais tout en ayant quand même de la concurrence dans chaque catégorie. Donc ça, c'est pas toujours évident, et par moment on joue le niveau 1, et puis l'année suivante on n'a pas le réservoir pour pouvoir assumer.
Oui. Après, c'est une question de génération.
Voilà, c'est un peu ça. C'est ça. Donc on essaye mais de minimiser, de limiter l'écart qu'il peut y avoir entre certains groupes.
Est-ce qu'il y a une section féminine ou pas?
Alors, il y a une équipe féminine qui est encadrée par Clément Demondion, qui fait un super travail. Donc c'est pour ça que en parallèle le club met en place un tournoi pour les filles. On souhaite vraiment attirer le plus de jeunes filles possible pour pouvoir avoir une, voire deux, voire trois équipes dans le club. Voilà, c'est une vraie volonté.
D'ailleurs, ce tournoi féminin, il s'adressera à des filles de quel âge?
De 14 à 17.
Ouais, finalement, c'est la catégorie d'âge que vous avez au sein du club.
Exactement.
Oui. Par rapport aux équipes de jeunes, est-ce que tu as certains joueurs d'équipe première comme toi, jadis, qui coachent des équipes de jeunes? Est-ce qu'il y en a certains qui sont sensibilisés au rôle d'éducateur?
Ben, en fait, tous les éducateurs de notre club sont licenciés en tant que joueurs. Donc d'accord. Ça, c'est... Alors qu'ils soient du groupe premier ou groupe réserve, hein, j'ai envie de dire, c'est pas là où il est le plus important, mais il y a une continuité en U11, en U8, U9, c'est des joueurs du groupe premier, U13, c'est un garçon du groupe réserve, Anthony Labbé, en U15, Arnaud Pinodo, qui est un joueur majeur de mon groupe, après U17, Jérôme Ballet, qui est joueur du groupe réserve. Voilà, c'est que des jeunes éducateurs.
Ouais, moi je trouve ça génial les joueurs éducateurs en même temps parce que ça fédère le club. L'éducateur avec ses jeunes l'après-midi ou le matin et puis le soir lorsque viennent les matchs seniors, c'est l'inverse, c'est les jeunes U11, U13 qui viennent voir le match et qui poussent derrière leur éducateur. Et moi je trouve ça génial cette symbiose qu'il y a entre éducateurs joueurs.
Bah c'est je trouve ça important et puis souvent les jeunes ils s'identifient à leur éducateur.
Bah bien sûr. Donc bien sûr. Et puis non Dieu que pour lui sur le terrain.
Exactement.
Ouais. Et puis le mercredi, il y a les petits débriefs. Ouais, t'as fait ça. Et enfin, c'est.
Donc vaut mieux être bon alors, dans ce cas-là.
Eh ben, tout à fait. C'est ce que je l'ai dit. Elle veut me pas se rater.
Vaut mieux. Sinon, généralement, les enfants, ils vous loupent pas.
On a évoqué les filles. Donc, vous avez des 14 du 17. Est-ce qu'à terme, d'ici quelques années, peut-être qu'il y a l'ambition de se créer une équipe senior féminine?
Bah, je pense que la porte, elle est pas fermée. Pour l'instant, le club se concentre davantage sur une vraie école de foot féminine. Oui. Après, de là à créer une équipe adulte, je sais que ça avait été le cas il y a ça quelques années à Nanteuil-Verteuil, qui était juste à côté de chez nous. Malheureusement, ça a duré un temps, mais ça n'a pas continué. Mais pour l'instant, j'ai pas forcément entendu d'équipe féminine senior. Après, s'il y a une qui se crée, bien évidemment que tout le club sera content parce que la place, on va dire que la porte du stade est ouverte à tout le monde. Mais je pense que là, le club se concentre davantage sur la création d'une vraie école de foot féminine.
Oui. D'ailleurs, vous avez combien de féminines alors dans ces U14, U17?
De mémoire, on en a 10. Alors 10 dans les 4 U, si je dis pas de bêtises, hein, le 14 à 17 ans. Après, oui. on en a qui jouent en U13.
Avec les garçons.
Exactement, en mixité.
D'ailleurs, il me semble que c'est jusqu'en U13 qu'on a le droit de jouer avec les garçons, si je me trompe pas.
Oui, c'est
Mais
ça.
Les filles ont un an de plus que les garçons.
Oui.
Parce que ça avait été le cas notamment d'Anna Clairac qui maintenant est en D1 à Soyaux, qui avait joué avec la CFC.
Elle
avait 14 ans et donc ses collègues avaient 13 ans sur le terrain, il me semble.
Oui.
Je souhaitais vraiment une belle fin de saison au Stade Ruffécois et puis les remercier pour leur accueil jadis il y a quelques années. On y mange très bien et c'est toujours très convivial du côté de Ruffec. Et puis surtout j'espère qu'ils seront à la lutte le plus longtemps possible en R3, qu'on ait vraiment des matchs vraiment sympas en fin de saison à jouer, parce que le fait de vibrer sur des matchs de fin de saison où on joue une montée, c'est quelque chose d'incomparable. Donc moi je vous souhaite vraiment d'aller forcément en R2, mais en tout cas d'être dans la course le plus longtemps possible pour y aller.
Ben c'est bien gentil Christian. Après moi aussi j'ai une petite requête, c'est qu'un petit reportage soit fait sur le club. Ça serait bien de venir parce que c'est vrai que par moment on a le sentiment qu'on est isolé géographiquement parlant, mais si la presse pouvait davantage se déplacer et venir dans l'enceinte pour que ce soit pour les jeunes ou pour le tournoi ou pour les seniors, ça serait génial.
Je te remercie du coup Yohan d'avoir accepté notre invitation, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi pendant une grosse heure du Stade Ruffécois. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine avec on baptisait l'invitation de Vincent Villedieu, l'entraîneur de Confolens. Donc on aura eu les deux entraîneurs en l'espace d'une semaine. Donc Yohan, je te propose un petit jeu. Est-ce que tu as une petite question à poser à Vincent Villedieu ou un petit commentaire à lui faire qu'on lui diffusera la semaine prochaine lorsqu'il sera avec nous?
Bah que si vraiment il aime le département de la Charente, s'il avait la bonne idée de battre Limoges, ça serait super pour nous.
On lui transmettra la semaine prochaine alors dans ce cas-là. Merci Ivan, bonne soirée.
Merci à vous, bonne soirée à tout le monde.
Parfait, ouais.